9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour mes amis, Maître Serane vous salue en ce vendredi 25 octobre. J'aurais aimé vous dire salam alaikum, mais il devient difficile aujourd'hui dans ce pays de s'autoriser ce type d'écart. Ça risque bientôt de devenir un délit que de prononcer ces mots, bien qu'ici nous soyons en famille. Alors salam alaikum à tous, musulmans, athées, juifs, bouddhistes, sikhs et autres. Alors comme d'habitude mon cher Philippe, il ne se passe pas un jour sans qu'on vienne nous bassiner avec la thématique des musulmans. Mais bordel, on n'a rien demandé. Si vous pouviez juste nous laisser tranquille quelques temps et laisser surtout nos femmes tranquilles, qu'est-ce qui vous prend les gars? Vous voulez être le peuple le plus stupide, pour ne pas dire le plus con du monde? Ça va, on a compris que vous ne supportez plus le musulman et que pour des raisons qui m'échappent, vous vous sentez poussé des ailes puisque vous n'hésitez plus à tenir ouvertement un discours de haine à l'encontre des musulmans. Pour autant, la finalité, je ne la comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'on retourne chez nous? Mais chez moi, c'est la France, que je me refasse mon visage, un peu trop typé peut-être, que je mange du porc, que je change de prénom. Bref, pour que tu puisses m'accepter, je devrais effacer mon identité, renier mes ancêtres, renoncer à ma double culture. Mais dans ma grande bonté, je ne peux pas en vouloir à ces pauvres racistes. Ils raisonnent comme des hmirs. Ils n'y peuvent rien. Alors pardon, hmal, je parle de l'animal pour cette comparaison peu flatteuse. T'imagines quand même que dans ce pays, il y a des gens, et pas des moindres, c'est pas le cafetier du coin, non, des journalistes, des intellectuels qui se minent la tête à longueur de journée à cause d'un voile, un petit carré de tissu qui met en émoi un pays comme la France. Le type, il doit se lever en pleine nuit. Non, pas le voile. Oh la mec, frère, c'est pas grave, allez, redors, c'est pas si grave. On a des débats pour savoir si on doit interdire le voile dans l'espace public. Dans l'espace public, t'as conscience de ce que ça signifie? Ça signifie que si tu continues comme ça, France, à t'en prendre à nos femmes, à nos filles, ce sera tout simplement la guerre civile que tu ne pourras pas gagner, bien évidemment. Mais j'en veux moins à ces débiles qu'aux pays musulmans eux-mêmes qui sont particulièrement absents de ce débat. Ça vous dérange pas, les gars, que vos frères soient stigmatisés, maltraités? Oh, l'Arabie Saoudite, toi qui te satisfais de notre argent pour le pèlerinage, tu pourrais mettre quand même un coup de pression à ce pays pour leur demander de mieux nous traiter. Oh, l'Algérie, oh, le Maroc, voir vos enfants se faire traiter de la sorte ne vous empêche manifestement pas de continuer à bien dormir. Notre communauté ne sera donc soutenue par aucun pays musulman en même temps. Pauvre naïf que je suis, qu'est-ce qu'on a à attendre de ce pays musulman qui se taise déjà face au sort des Rohingyas et des Ouïghours? Rien, manifestement, on n'a rien à attendre d'eux. Je vous laisse méditer sur ce point, mais avant, revenons à des choses plus terre à terre. Appelez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de notre sage à nous, monsieur Philippe Robichon, BRFM. C'est tout droit, c'est parti.
Que vous allez dire votre singe, Maître Serane?
J'ai eu chaud. Je vais m'autoriser à dire ça, mais oui, jamais.
En antenne, vous le dites.
Jamais.
Maître Serane a chaud à la truffe aujourd'hui, je vous dis tout de suite.
Dit comme ça, non mais c'est vrai, j'ai un peu
chaud. Vous avez la truffe un peu chaude.
Ouais, j'ai la truffe.
Qu'est-ce qui vous arrive, Maître?
Je sais pas, j'ai un petit peu de fièvre, j'ai mal dormi cette nuit.
Vous êtes sorti déshabillé.
Très régulièrement, je sors déshabillé. Enfin voilà, vous savez. Et puis boum, j'ai attrapé froid.
Bon. Merci d'être là, quand même, Maître Serane.
C'était avec plaisir.
En dépit de votre truffe finie, d'être là avec nous. On va parler du divorce, tiens. Et que faire quand un des deux conjoints ne veut pas divorcer? Quelles sont les procédures qu'on peut utiliser au-delà de celles que Maître Serane suggère quand vous allez le voir en soum-soum au cabinet, puisque lui, il a toujours une ou deux solutions plus ou moins légales.
C'est vrai, plus ou moins légales. C'est-à-dire que souvent, on entend, en particulier les hommes, pour plaisanter évidemment, oui, pour dire maître, je veux me séparer, madame ne veut pas, est-ce qu'on peut envisager une solution plus radicale? Alors je comprends, derrière le mot radical, j'entends.
Et là, Maître Serane sort son fichier.
Ouais, et je...
J'ai Igor qui peut s'occuper de ça.
Et je distribue, si vous voulez. Voilà. Mais c'est une vraie difficulté. On prend un peu plus quand même.
Igor est plus cher que ça.
Il faut faire disparaître le corps. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent, parce qu'en dehors d'une procédure à l'amiable ou en dehors de la procédure qui consiste à demander le divorce et la personne en face va acquiescer en disant « bah oui, j'accepte le principe du divorce », En dehors de ces hypothèses-là, bien évidemment, si l'un des conjoints ne souhaite pas divorcer, si l'un des conjoints veut, ouais, entre guillemets, jouer le pénible, eh ben, bien évidemment, donc, il a cette possibilité de vous compliquer la vie, ce qui fait qu'on peut passer au niveau timing d'une procédure de divorce, quand tout le monde est d'accord, on va dire à 6-7 mois si on est dans le cadre d'un divorce à l'amiable, à une procédure qui peut durer à minima 2 ans. Alors, je vous cache pas que il y a toujours cette inégalité entre monsieur et madame, c'est-à-dire que quand une procédure dure très longtemps, c'est toujours madame qui en pâtit, parce que très souvent il se passe quoi ? Ben, il se passe que l'homme, dans sa grandeur, est empêtré dans sa procédure de divorce, mais rien l'empêche, et souvent, alors moi je suis toujours atterré, souvent vous avez des clients qui viennent vous voir en vous disant « mais je me suis marié religieusement, alors que ce soit au pays ou ici », bah oui, mais ça c'est typique des hommes, c'est-à-dire, et moi je trouve ça toujours extraordinaire, parce que je leur précise que bien évidemment, cette procédure de mariage religieux n'aura pas l'ombre d'une incidence sur le territoire français, parce que très souvent, et la bêtise n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on vous dit « mais je me suis marié religieusement au pays », on a une procédure de divorce qui est en cours et on nous dit « est-ce que je peux faire venir donc ma seconde épouse ?» Eh ben, par définition, non. Et heureusement, ça ne présenterait vraiment aucun sens, mais en dehors de la...
Un sens, non, mais un intérêt peut-être.
Ah, un intérêt, mais moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est empêtré dans une procédure de divorce, parce qu'une procédure de divorce, même quand elle se passe bien, enfin voilà, c'est toujours pesant, c'est lourd, et je parle même pas des conséquences sur le ou les enfants, mais je me suis toujours demandé comment, alors que qu'on sort les pieds de la mouise, à peine, on va essayer de se compliquer la vie davantage pour dans le cadre d'une autre procédure de mariage. Moi, c'est vraiment un truc qui m'échappe. Et souvent, hein, vous avez des clients qui vous pressent en vous disant « mais écoutez, moi cet été, je vais me marier ». Bon, on a envie de leur dire quand même, mais cet été, on ne sera pas divorcé non plus. Donc, ils sont même plus en capacité de se retenir et d'attendre que la première procédure se termine. Mais vraiment, ça, c'est...
Se retenir de quoi, Maître Serrano?
Enfin, se retenir, vous entendez...
Parce que là, vous faites un geste qui fait peur.
Ah, non, mais c'est n'importe quoi. Je ne suis pas en train de faire un geste qui fait peur. Mais...
Bah, Tariq est là, il a vu le geste.
Ah, j'ai vu le geste. Hein,
Non, en tout cas, bon, enfin, se retenir...
Des divorces, oui, le geste.
Voilà, dans tous les sens du terme. Voilà, dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai que, bon, c'est assez particulier. Maintenant, vous avez bien compris qu'il y a, entre guillemets, une sorte de stratégie à avoir. Il est certain que si vous dites à votre future ex-épouse qu'il faudrait qu'elle aille vite parce que vous avez besoin de vous remarier, stratégiquement, ça n'a pas de sens. Et pourtant, on l'entend très régulièrement et c'est ça qui est un peu fou. Donc, au moins par respect, j'allais presque dire pour madame, faites en sorte de pas lui raconter que vous avez un projet de mariage, parce que sinon, vous avez bien compris, et ce que je peux comprendre, c'est humain, madame ne fera pas l'ombre d'un effort. Donc, en dehors d'une volonté commune, si on veut aller vite, en dehors de cette volonté commune, il va falloir vous armer de patience, puisqu'il ne reste plus qu'une seule procédure en la matière. Donc, enfin, deux, c'est la procédure de divorce pour faute. Et faut faire attention à la nature des fautes qui sont invoquées. Votre conjoint qui, si vous l'avez dégoûté, a quitté le domicile conjugal, le fait de quitter le domicile conjugal en soi, rien que ça, c'est pas suffisant pour qualifier une faute. Et puis, vous avez la séparation de plus de 2 ans. Mais là, vous avez bien compris que si votre projet de mariage urge, et si vous devez attendre une séparation, donc à minima être séparé de madame depuis plus de 2 ans, bien évidemment, la procédure donc va considérablement s'allonger. Donc c'est vrai que je dis souvent, et encore une fois, c'est souvent les hommes qui raisonnent comme ça, je leur dis souvent, essayez de trouver une médiation, on essaie parfois, hein, entre avocats, de tempérer les choses, mais la difficulté étant qu'on a des clients encore une fois, très souvent, c'est l'homme, donc des clients masculins qui sont très pressés de divorcer et qui font tout pour énerver la future ex en disant bah, « ce serait bien qu'on divorce vite parce que cet été, j'ai envie de me remarier ». Donc je dis simplement, et c'est un appel, stratégiquement éviter ce genre de choses.
– Bien raison de rappeler ce rappel stratégique.
– On est d'accord, parce que déjà, par définition, les femmes sont compliquées, alors si en plus, vous vous y mettez et vous les provoquez…
– La langue, dans ce cas-là, ouais.
Donc c'est certain que madame fera pas l'ombre d'un effort faire en sorte que la procédure de divorce aille vite. Donc encore une fois, essayez de tabler sur la médiation, et je le redis, les adultes, papa, maman font ce qu'ils veulent, mais quand il y a des enfants, n'oubliez pas que vous raisonnez toujours dans l'intérêt de vos enfants, et c'est ça qu'il faut toujours mettre en avant.
Bien, 01 53 48 3000.
Ah, il y a l'armée de copines aussi derrière, hein, contre qui tu combats.
Oui.
Les gars, stratégie à fond. Hein.
Tu les femmes sont pires que madame.
Non, mais ça, c'est pire.
Le cancer du couple, c'est les meilleurs amis.
Ouais, mais c'est
savoir.
Vrai.
Non, mais je te jure.
Ouais, mais c'est vrai que l'entourage est toujours de très, très mauvais conseils.
Très mauvais conseils.
Non, mais il y a l'entourage et les meilleures copines.
Les
meilleures
copines.
C'est pas du tout la même chose.
Surtout la copine de 40 piges, tu sais, celle qui est tapie dans l'ombre depuis des années. Qui vient
et qui est célibataire.
Et qui est célibataire et qui va d'échec en échec et qui vient à tous les repas. Elle, son but, c'est de rallier sa copine à sa cause. Attention.
Mais c'est vrai.
C'est vrai. Ah non, mais c'est souvent celle-là, celle que t'as cru qu'elle t'a toujours aimé, mais en fait, elle t'a toujours détesté.
Et parfois, elle accompagne même la cliente. Donc, pour s'assurer de bien entendre et de ce qui se dit entre l'avocat et notre cliente. Mais ça, c'est vrai. Ouais, c'est assez monstrueux d'ailleurs. Mais,
et de l'autre côté, t'as l'expert. C'est le meilleur ami du gars. Alors lui, c'est l'expert. Il est expert en divorce. Il a 4 mariages, 4 pensions alimentaires. Il joue en Ligue des Champions du divorce. Lui, il connaît le code pénal sur le bout des doigts.
Dider, si tu nous écoutes. Non, c'est pas bien.
Non, mais
c'est pas bien.
Moi, je sais pas.
Ouais. Pas de nom.
Il a 4 anneaux.
Pas de nom.
Il est sponsorisé par Audi.
en début de mois, il est déjà à moins en pension alimentaire. Allez, on a Abdelkader qui est avec nous. Abdelkader, bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur Philippe et maître Serran.
Bonjour, Abdelkader.
J'ai une question à vous poser, maître Serran, s'il vous plaît.
Bien sûr, on vous écoute.
J'ai divorcé, tout a été passé, c'est la séparation des patrimoines.
Oui.
Je suis marocain, je vous le dis franchement, et ma femme, elle est française. Et on a tout séparé ici, il n'y a pas de problème, et c'est ce qui s'est passé, on avait un appartement au Maroc. Et le notaire, il arrive, je ne sais pas qu'il me fait comme document, c'est un notaire, parce que le divorce, il a duré longtemps. Hein. Je voulais savoir quels documents ils vont fournir pour mettre l'appartement à mon nom, parce que j'ai acheté sa part.
Ah non, enfin, à part, si vous me dites qu'il y a un accord entre vous et madame pour le rachat de part, ça va se formaliser exclusivement devant un notaire. Donc ça, en soi, ça pose pas de difficultés. Quand vous me dites que vous avez racheté sa part, ça s'est concrétisé comment? Vous vous êtes rendu chez qui pour acheter la part de madame?
C'est par l'intermédiaire du notaire.
Et bon, enfin, voilà, oui, par définition.
Place à Paris, à la rue des Champs-Élysées, je vous dis franchement. Vous devrez le connaître.
Le notaire ?
Ouais, mon notaire, c'est la rue du Cirque.
Rue du Cirque, ça présage rien de bien. Hein.
C'est... Voilà.
rue du Cirque.
Bon, en tout cas, voilà, c'est-à-dire que le plus compliqué, vous savez, dans ce qu'on appelle la liquidation de la communauté, c'est quoi ? C'est que quand on est propriétaire en indivision, c'est-à-dire il y a monsieur et madame qui sont propriétaires, pour compliquer la vie de l'autre, on évite. Parfois, on fait traîner le rachat des parts. Mais là, le problème ne se pose pas. Si madame a cédé ses parts et si c'est acté par votre notaire, monsieur, ça pose plus de difficultés. Si vous avez un acte notarié qui constate que pourquoi vous a dit que ça posait problème ou vous avez une difficulté?
Justement, il veut pas me faire un acte notarié. Il m'a fait une attestation. L'identification du notaire, l'identification de monsieur et madame, qu'il m'a fait. Audit acte est pour fournir à monsieur le montant de ses droits et lui a été attribué notamment la toute propriété des biens, les droits immobiliers, c'est après désigné. C'est pas la peine que je voulais
pas la peine. Enfin voilà, j'ai compris le principe. C'est-à-dire que vous avez un acte officiel qui constate l'accord. En tout cas, la cession de part entre vous et madame.
Et c'est suffisant, ça, pour annoncer?
Ah bah oui, en soi, c'est suffisant. Vous savez, c'est, enfin, là, vous avez manifestement pas l'air de vous en rendre compte, mais je peux vous assurer que simplement pour avoir ce type de document, on a parfois des clients qui galèrent très, très longtemps. Donc, à partir du moment où c'est acté, il n'y a pas de difficulté.
Par contre, je vous coupe, il m'a fait sur un autre document, quoi, accord sur la valeur des biens immobiliers, le montant de temps. C'est suffisant pour un notaire, c'est pas la peine qu'il me fait un acte ici.
Ah non, encore une fois, avec cet élément-là qui reprend en détail l'accord que vous avez pu conclure ou que l'accord qui a été convenu entre vous et votre ex, il n'y a pas de difficulté. Ce qu'il faut, c'est que tout ça soit acté noir sur blanc. Donc là, vous avez le nécessaire. Donc il n'y a pas d'autre élément à avoir ou à attendre de la part des autorités notariales.
D'accord, parce que moi j'ai exigé qu'il me fait un acte, on l'a acheté par contrat. Le contrat, qu'il enlève son nom là-dessus, il dit qu'en quoi je l'ai acheté, j'ai acheté sa part. Il m'a dit non, je peux pas le faire.
Bah oui, mais enfin, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez effacer concrètement? Je comprends pas la nature de votre interrogation. Vous achetez en commun avec madame, à partir du moment où il y a un divorce qui est prononcé, à partir du moment où dans le cas de ce qui s'appelle la liquidation de la communauté, madame cède ses parts. Bah voilà, je peux vous assurer qu'il y a des situations beaucoup compliquées, beaucoup plus compliquées entre monsieur et madame, et là non, je crois que madame a entre guillemets joué le jeu. Donc
oui,
il n'y a plus rien à attendre d'elle.
Moi, j'ai à acheter ma part parce que ça va durer plus longtemps et tout ça. Moi, je ne voulais pas, mais finalement, j'ai accepté d'acheter sa part.
Ouais.
C'est le notaire qui s'est en occupé de tout. Hein.
Oui, ce qui est normal. Bah donc, il n'y a pas de difficulté.
Non, sauf le document. Ce document-là, il est suffisant vis-à-vis des notaires ou
des... Ce document-là est suffisant, il n'y a pas de problème. Ce document-là est suffisant. À partir du moment où il acte l'accord entre l'un et l'autre, ce document-là est suffisant.
L'audit acte pour fournir à monsieur, ça c'est suffisant.
Absolument.
D'accord, je vous remercie infiniment.
Merci à vous pour votre appel.
Merci Abdelkader.
Au revoir.
Bonne journée, revoir. À bientôt. Et on ne sait pas quel est donc le nom de ce notaire rue du Cirque. D'autres appels dans un instant. Si vous avez une question à poser à Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h. AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran répond à toutes vos questions en direct au 01 53 48 3000. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas passer à l'antenne et parler devant tout le monde à Maître Serran et qui voudrait le joindre en particulier. Maître Serran, oui, vous donne son numéro
bien
de téléphone.
Bien sûr, joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
On va à Aix-en-Provence, Maître Serran, et on accueille Radija. Bienvenue, Radija.
Allô?
Oui, Radija, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Radija.
Bonjour, voilà, ma question elle est un peu difficile. Voilà, je suis mariée à un Pakistanais qui est rentré en France sans visa.
Oui.
Donc, nous avons fait les démarches comme il se doit à la préfecture. Ils nous ont dit d'attendre 3 ans de mariage. Les 3 ans sont passés. Et la réponse est encore négative.
Ouais. Alors, je suis pas surpris, mais les autorités préfectorales auraient dû en fait vous dire ce que je vais vous dire là dès le début. C'est-à-dire que il y a un élément rébarbatif, c'est l'absence de visa quand vous venez sur le territoire français. Quelqu'un qui viendrait avec un visa en qualité de touriste, quelqu'un qui viendrait avec un visa d'étudiant, avec un visa de travailleur, peu importe, quand bien même ce serait pas un visa long séjour que la France ne donne quasiment plus, peut, sur le moyen ou même le long terme, espérer être régularisé. Mais à minima, les autorités françaises, les autorités administratives, mais même les tribunaux administratifs considèrent qu'à minima, il faut au moins être en capacité de présenter un visa. Donc le problème, quand vous me dites que ça a été refusé, je suis pas plus surpris que ça. Alors, ça a été refusé, c'est-à-dire que vous avez reçu une obligation, enfin, monsieur a reçu une obligation de quitter le territoire ?
Oui, OQTF.
Ouais. Vous êtes dans le timing pour contester ou pas ?
Oui.
Ils lui ont accordé quoi, 30 jours ? Oui, 48 heures.
30 jours.
30 jours. 30 jours. Ouais. Bon. Alors, sur le principe, évidemment, il n'y a rien qui interdit de contester, mais ce ne serait pas sérieux de ma part de vous faire miroiter qu'un tribunal administratif va vous donner satisfaction. Pour tous ceux qui nous écoutent, encore une fois, il faut faire attention, mais si vous venez sans visa, et en particulier pour les Nord-Africains qui souvent passent via l'Espagne, il faut à minima un visa, quand bien même ce serait pas un visa délivré par les autorités françaises, alors déjà c'est un peu plus compliqué, mais à minima il faudrait un visa. Là, Khadija, je vois pas beaucoup de solutions, parce que encore une fois, juridiquement vous pouvez contester l'obligation de quitter le territoire, mais honnêtement, vous risquez d'avoir un refus. Donc, il n'y a pas.
Je sais, ouais, vous allez ouais. au tribunal, ben vous oui. allez à la cour, ça ne sert à rien.
Non, c'est pour ça. Alors, il n'y a pas mille options. En fait, la seule option, mais ce n'est pas non plus la meilleure des options, ce serait que monsieur retourne au pays, entre guillemets, qui reparte à zéro, qui demande un visa pour venir sur le territoire français. Mais les autorités françaises ne sont pas folles. À partir du moment où quelqu'un s'est maintenu sur son territoire et qu'il n'a pas respecté les lois du pays, vous imaginez bien que les services consulaires vont pas lui délivrer le moindre visa. Oui. Et donc il finira par être bloqué là-bas. Donc voilà, donc soit il retourne avec le risque, mais plus qu'un risque, d'être bloqué là-bas, soit il reste ici, mais risque de d'errer comme un fantôme pendant des années. Donc il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas un chemin à prendre où ce serait facile, il n'y a pas une porte à pousser, ce serait simple. Les personnes qui viennent sur le territoire français sans visa, en règle générale, au bout d'un moment, elles finissent par retourner au pays et éventuellement solliciter un visa, avec tous les risques que je viens d'évoquer. Mais malheureusement, Khadija, j'ai pas de d'autres options à vous proposer. Ouais, la loi est stricte ouais. en la matière. Mmh.
Pourtant, je suis française.
Ah non, mais la difficulté, Khadija, vous auriez pu être d'une autre nationalité que nationalité française. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est on a quelqu'un qui vient sur le territoire français. Vous me dites sans rien, sans visa. Oui. Donc c'est ça. C'est vous voyez, c'est même pas lié à votre nationalité française ou pas.
C'est qu'il est rentré sur le territoire français sans visa. Voilà.
Mais à partir du moment si monsieur était venu avec un visa. Que vous soyez française, algérienne, marocaine, tunisienne, enfin peu importe. Ouais, la difficulté, c'est pas à ce niveau-là. C'est que ce monsieur est venu sur le territoire français sans qu'à aucun moment les autorités françaises n'aient à se prononcer sur son dossier. Donc, à part dire monsieur, vous retournez au pays, vous ressaisissez les autorités consulaires. Je vous le redis, je suis pas fou. Je sais très bien que les autorités consulaires vont lui refuser, évidemment. Sauf que même s'il se maintient ici, vous aurez beau refaire des demandes auprès de la préfecture, recontester les refus notifiés par la préfecture, vous risquez de faire du surplace pendant de très 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 nombreuses années.
Alors on fait quoi, maître ?
Il y a pas. Encore une fois, j'aimerais vous dire, écoutez, il y a ça et c'est une bonne solution. Non, il y a pas d'option, parce que quand bien même il retournerait au pays pour solliciter un visa, qui lui sera refusé. Donc ça c'est certain. Oui, oui. Mais on se dit bon, si les autorités françaises refusent le visa, eh ben monsieur peut le contester. Mais vous imaginez bien que moi, la commission, si vous me saisissez, moi la commission qui serait amenée à me prononcer sur le refus de visa, ou moi, tribunal administratif de Nantes, qui serait amenée à me prononcer sur ce refus de visa, en face, on va me dire quoi ? On va me dire, attendez, il y a ce monsieur qui a fait le malin, il était venu sans visa, il s'est maintenu pendant X temps, on lui a demandé de quitter le territoire, et puis il n'était pas parti spontanément. Donc l'État a la mémoire longue. Donc quand bien même, donc alors c'est terrible, à part monsieur retourne dans son pays et puis il reste là-bas et puis vous restez ici, ou alors vous allez le rejoindre, mais je comprends bien que ce discours est difficile à entendre, mais juridiquement ce serait pas sérieux que qu'un avocat, quel qu'il soit, puisse vous dire, chère madame, s'il retourne, il va revenir sans problème, ou alors continuer de faire des recours. Il y a des situations qui sont entre guillemets pliées. Et là, le dossier est plié, c'est-à-dire que je vois pas juridiquement, si ce n'est un excès de gentillesse de la part des autorités préfectorales, qui n'existent plus depuis très longtemps, mais je ne vois pas juridiquement comment ce serait possible Khadija, de régulariser la situation de votre mari, franchement.
D'accord.
Je suis navré, hein, c'est un coup de gourdin sur la tête, mais c'est une réalité.
Oui.
Jean-Jacques Gourdin.
Jean-Jacques Gourdin, ouais.
C'est... Je vous remercie.
Merci à vous, Khadija.
Que à ça, j'espérais. Mais bon, je sais que c'est foutu, quoi. Je sais.
Ouais, bon, après, il y a l'option vous vous séparer de lui, puisqu'on parlait du divorce tout à l'heure. Ça, c'est aussi une option. Mais pourquoi vous me frappez, mon cher Philippe? Mais non, mais quitte à répondre aux questions de Khadija, autant aller
l'amour.
Jusqu'au bout du... Ouais, l'amour.
L'amour avant tout.
J'entends bien. Mais non, Khadija, en tout cas, sur un plan purement administratif, au niveau régularisation, franchement, pardon de le dire comme ça, c'est un peu violent, mais ça me semble complètement plié.
Oui, non, oui, je m'en doutais.
Ouais.
Que de le confirmer, quoi, c'est tout. Je m'en doutais bien.
Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est confirmé. Il n'y a pas d'option juridique. Merci à vous, Khadija, pour votre appel.
J'ai passé un excellent week-end.
Merci, Khadija.
Bon, en tout cas, on pense à vous, Khadija. Gros bisous.
Merci.
Au revoir. Dites les choses gentiment, Maître Serran. Hein.
Bah, c'est gentil ce que j'ai dit, non,
non.
Enfin, j'essaie de.
C'est voilà. Dur. Non, mais c'est des situations de vie qui sont compliquées, ça.
C'est dur d'entendre la vérité.
Ouais, mais.
Non, je vais vous dire, je dis souvent.
Il faut toujours laisser un peu d'espoir, quand même.
Oui, alors, mais sauf que. Sauf
je vous le dis, en fait, voilà, parce que c'est dur. Enfin,
non, mais c'est bien sûr que c'est dur. Mais
c'est une projection qui est compliquée. Ça,
évidemment.
L'espoir, ça tue.
Voilà, mais je dis toujours à mes clients, ça peut sembler curieux, mais l'avocat n'est pas là pour faire plaisir à son client. Si vous voulez faire plaisir à un client, à chaque fois qu'il vous dit un truc, vous dites oui. Et il ressort en sifflotant de votre cabinet et il est content. Mais ça ne marche pas comme ça. Et là, pour Khadija, ce ne serait pas sérieux de lui dire dans un mois, dans un an, dans deux ans, ça va s'améliorer. Évidemment que non. Ah, c'est dur, mais c'est comme ça. Hein.
Alors Samira est avec nous au 01 53 48 3000. Samira, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour Samira.
Voilà, moi je vous appelle pour un petit renseignement concernant mes parents qui se trouvent en Algérie, qui viennent ici de temps en temps en visa touristique. Hein, y a pas de souci, ils restent un mois, ils repartent, hein, donc tranquillement. Mais là, si on aimerait, si vous voulez, on est six enfants ici, c'est qu'on leur fasse une carte ou un autre visa qui pourrait leur permettre de, si vous voulez, c'est pas de rester plus longtemps, ça les intéresse pas, mais éviter d'aller demander le visa à chaque fois.
Oui, c'est ça, de venir quand ils ont envie de venir sans refaire toute la procédure et la démarche qui dure des siècles et qui est parfois aléatoire.
Et oui, en plus, ça, c'est très loin, on est à 250 km d'Alger, pour eux, c'est un long trajet à chaque fois de voyager là-bas, donc du coup je voulais savoir comment ça se passe.
Ça se passe très simplement puisque ça relève toujours des autorités consulaires. Alors vous me dites que vos parents sont déjà venus à plusieurs reprises, ils ont toujours respecté,
ils ont toujours respecté
les règles à la lettre.
Donc, oui, bien sûr, on est six enfants, on est tous de nationalité française, voilà, et ils viennent, ils repartent sans problème, mais là... On voudrait savoir comment faire pour
Alors,
éviter.
Alors, il y a un mot que j'utilise très souvent, c'est la notion de pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que, objectivement, de ce que vous êtes en train de nous raconter, on se dit que vos parents réunissent toutes les conditions pour, en tout cas pour solliciter donc un visa qui leur permettrait effectivement donc de venir sur le territoire français sans repasser systématiquement par l'autorité consulaire.
Oui. Mais mon père, il est ancien en combattant. Je ne sais pas si ça compte aussi.
Vous savez, les autorités administratives sont assez ingrates sur tous les sacrifices.
Oui,
donc là, franchement, ça fait entre guillemets ni chaud ni froid. Pour autant. Moi, spontanément, a priori, les autorités consulaires vont refuser. C'est leur premier réflexe, bête et méchant, mais c'est comme ça. Après, ce genre de situation, ce genre de dossier ne peut aboutir que devant la commission ou devant un tribunal administratif. Ça, ce serait possible. Mais honnêtement, comme ça, spontanément, il est peu probable que les autorités consulaires leur accordent ou leur donnent satisfaction. Mais c'est comme ça, hein, ce sera même pas spécifique à votre situation ou à vos parents. C'est un premier réflexe des autorités françaises. Ou alors, il faudrait que vous soyez baigné dans un baril de chance qui n'existe plus en matière administrative. Donc, il faut évidemment qu'ils sollicitent ce type de visa. Pour autant, il faudrait pas leur dire bon, ben voilà, on m'a dit il y a pas de problème. Non, essayez de les briefer dans le sens où la probabilité pour que ce soit refusé est quand même importante. Mais après, c'est jouable devant une commission, enfin devant la commission de refus de visa, devant le tribunal administratif, à partir du moment où vos parents ont eu, entre guillemets, un parcours exemplaire et qu'au pays, voilà, il y a tous les membres de la famille, en tout cas les enfants, et qui en plus sont de nationalité française. Donc ça, c'est important. Mais je vais vous dire, il y a quand même, faut faire attention à ça, parce que si je dis que ça, je suis pas complet. Les autorités françaises sont parfois un peu compliquées. C'est-à-dire que si vous revenez vers elles pour leur demander un autre type de visa, ils peuvent ensuite se dire, eh ben, la prochaine fois, même un visa en qualité de touriste, moi, France, je ne le délivrerai pas. Eh oui, donc faut faire attention, ça c'est un paramètre qui est à prendre en considération, et on a parfois des gens qui veulent demander, entre guillemets, plus, encore une fois, pour stabiliser la situation des uns et des autres, et puis les autorités françaises sont un peu ingrates en disant, ben non, ils veulent un peu plus, et ben même le visa en qualité de touriste, moi je vais arrêter de leur donner. Ça peut être l'une des conséquences. C'est pour ça, ce genre de procédure, faut pas non plus le faire comme ça à la légère. Hein.
Oui, ça peut porter...
Ah ouais, franchement, hein. Ouais. Alors, évidemment, après, même si un visa en qualité de touriste est refusé, vous avez 1000 arguments pour le contester, puisque vos parents sont toujours venus et n'ont pas causé de problème.
Oui.
Pour autant, il y a un timing. Aller devant la commission, c'est 2 mois. Si la commission dit non, aller devant le tribunal administratif de Nantes, puisqu'il n'y a qu'un seul tribunal en France hein, qui gère ce contentieux, ça met à peu près 1 année. Ouais. Donc voilà, faites quand même attention à ça. La France pourrait, même pour un visa touristique, le refuser par la suite. Donc faut faire attention. Hein.
Et ça, c'est nouveau, hein, Maître Serran, parce
que non, c'est pas nouveau.
De moi, j'ai des copines qui ont ramené, dont les parents ont des visas.
Il n'y a rien de nouveau. Non, alors, l'argument des copines ou des gens où je connais X pour qui ça a marché, je vous assure que ça je l'entends tout le temps. Sauf que d'une situation à une autre, c'est évidemment, enfin voilà, par définition, c'est du sur-mesure. Et est-ce que le visa de votre copine n'aura peut-être pas d'incidence dans votre dossier? Donc il faut y aller, mais prudemment.
Voilà, Samira, ce que Maître Serran pouvait vous dire. On marque une pause, Maître Serran. Dans un instant, dernière ligne droite avec vos questions 01 53 48 3000. On a de la chance aujourd'hui. Tariq est là et le standard refonctionne. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais ça fonctionne ce matin. Si. Je sais pas ce que tu as touché, mais ce matin, c'est magique.
Je le connais un petit peu, je suis bon en technique.
Tu as trouvé les mots pour lui parler.
Là, je suis technicien, animateur, réalisateur. Donc c'est ma casquette de technicien.
Et humoriste.
Et humoriste.
En plus, tu vois, accessoirement.
Accessoirement, je fais des petites
vagues. C'est pas un accessoire.
À travers la France.
C'est un métier quand même.
D'ailleurs, Toulon, je serai chez vous ce soir à Sanary.
Le placement produit.
Au théâtre Daudet, il reste une petite poignée de place. Ceux qui veulent me venir me voir ce soir à Toulon.
À Sanary,
exactement. Sanary, au théâtre Daudet.
Alphonse Daudet, c'est ça?
Alphonse Daudet, ouais.
Voilà. Et ceux qui veulent poser leur question à Maître Serran, composent 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et surtout Maître Serran, puisque vous le savez, vendredi, Maître Serran répond à vos questions en direct au 01 53 48 3000. Maître Serran, maintenant que vous avez toussé, on peut aller à Sartrouville. Et c'est Mohamed qui vous attend. Mohamed, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour, Maître Serran.
Bonjour Mohamed. Salam.
Bonjour Monsieur Philippe.
Bonjour Mohamed.
Merci Maître Serran pour votre introduction. Ça m'a vraiment, c'est vraiment touchant ce que vous avez dit.
Ah bah merci, ça fait plaisir d'entendre.
Franchement, c'est gentil. On a besoin de gens comme vous qui représentent un petit peu cette communauté qui est plus ou moins en ce moment très touchée par tout ce qui se passe. Quoi.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Exactement. Autre chose, Maître, c'est ma question, elle est aussi courte et simple. Est-ce que quelqu'un qui a déjà été condamné pour des faits, quoi que ce soit, il peut faire créer une société de transport de personnes.
Alors, il faut savoir que quand on a une condamnation, en règle générale, dans la décision qui est rendue, on rajoute une disposition qui dit que je vous condamne à telle ou telle sanction, et puis il y aura interdiction éventuellement de créer une société. Alors très souvent, les condamnations, quand elles prononcent ces interdictions de créer telle ou telle société, il s'agit en règle générale d'infractions qui sont déjà liées à une activité professionnelle liée donc à telle ou telle entreprise, liée à telle ou telle boîte. Donc voilà, c'est pas comme ça tout seul le magistrat qui dit bah en plus je vais vous interdire de gérer par exemple telle structure. Donc il faut que déjà initialement ce soit lié à ça. Et si ça n'a pas été prononcé, il n'y a pas de difficulté. Alors évidemment, il y a des domaines, dans le domaine de la sécurité par exemple, où on demande à ce que le casier judiciaire soit propre.
Oui.
Voyez. Et si le casier judiciaire n'est pas propre, dans ce cas-là, il y a aussi une option qui consiste donc à demander l'effacement du casier judiciaire quand vous présentez un projet et vous expliquez que cette tâche sur le casier judiciaire donc est en train de vous pourrir la vie. Donc il y a toujours la possibilité, même quand il y a une condamnation, donc de faire en sorte de demander en tout cas l'effacement de cette condamnation. Sinon, si le magistrat n'a jamais fait état d'une quelconque interdiction de gérer, quand bien même il y aurait eu une condamnation pénale, ça n'a pas d'incidence.
Ça marche. Je vous remercie beaucoup, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, Mohamed, pour votre appel.
Merci, Mohamed.
Merci, au revoir.
Reda, bienvenue sur Beurre FM. Reda.
Oui, bonjour.
Bonjour, Reda.
Oui, bonjour Maître Serran.
Bonjour,
voilà,
Reda.
Première, j'ai toutes les peines du monde pour vous avoir au téléphone. Bon, on va passer. J'ai une question à vous poser.
Ben, c'est fait pour ça. L'émission est faite pour ça, Reda. Posez votre question à Maître Serran.
En effet, oui. Alors, je suis en appel de divorce, donc je viens de divorcer. Et j'ai fait appel pour la garde alternée de mes enfants.
D'accord.
Bon, l'histoire est en cours, donc on a audience pour le 25. C'est une histoire d'argent, donc j'ai découvert que madame a pris toute la cagnotte qui nous permettait justement de constituer un apport pour l'achat d'une maison. Grand cul m'a surprise, donc voilà, on est parti au divorce. Bon, je vous passe les détails. Voilà, j'ai cette avocate qui prend cette affaire, sauf que j'ai découvert en fait. Qu'il y a dans ce témoignage.
Alors, parce que Reda, on vous entend moins là.
Oui, allô ?
Oui.
Vous m'entendez là ?
Voilà, parce que vous avez enlevé le haut-parleur. C'est parfait, on vous écoute, Reda.
Ah, il y avait le haut-parleur, c'est pour ça qu'il y avait un effet d'écho.
Eh oui, c'est ça.
Alors, je vous explique.
Donc, madame a pris la cagnotte que vous constituiez dans le but de construire une maison, c'est ça ?
Exactement, c'est qu'on vivait sur mon salaire. Le sien servait justement à constituer cette cagnotte. Le jour où on s'était rencontrés chez l'agent immobilier, eh ben c'est là où j'ai découvert le poteau rose. Donc, au lieu d'avoir 80 000 euros, il y en avait 25 000. Donc voilà, on est parti en divorce. J'ai perdu parce qu'en fait, je vous cache pas que j'avais enregistré madame qui était en train de manipuler mes enfants. Bien sûr, on ne peut pas utiliser un délit pour avoir raison. Le juge a trouvé ça que c'était relevant de la violence psychologique. Mmh. Voilà, là, je suis en appel. Moi, ma question, c'est la suivante. C'est que j'ai découvert deux faux témoignages de voisins. Et j'ai, sur 38 attestations, demande à l'unanimité, atteste que c'est moi qui dépose les enfants, qui les récupère de l'école. À l'exception de deux voisins. Je compte les assigner au pénal, sans qu'aujourd'hui, j'en avais parlé à mon avocate, qui trouve un peu mal placé, qu'il n'y a pas de priorité d'abord. Ça fait un an et demi, et je compte assigner ces deux personnes, justement, au pénal.
Alors, pour faux témoignages, en fait.
Pour bien comprendre, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez découvert qu'il y a deux personnes qui ont en tout cas raconté des bêtises, donc on est en matière de faux témoignages, et vous me dites que vous allez vous retourner contre ces personnes.
ces deux personnes, oui.
D'accord. Alors d'abord, ce qu'on peut évidemment comprendre. Et votre avocat dit quoi par rapport à ça?
Bon, on a dit calmez-vous d'abord. Il y a une priorité. Il faut d'abord gagner l'appel pour la garde alternée des enfants. Parce que je viens d'avoir un appartement, donc j'ai un dossier plus,
ouais,
plus convaincant et concluant pour la garde des enfants. Elle me dit chaque chose à sa place, sachant déjà que j'ai un dossier en 15 jours, j'ai des procès, c'est-à-dire la même avocate où je suis au prudent pour retard de carrière et discrimination, et c'est la même avocate qui me prend le dossier justement pour le divorce.
Oui, enfin bon, mais ça, c'est, enfin, j'imagine qu'elle vous a pas posé un pistolet sur la tempe. C'est vous qui lui avez confié le deuxième dossier, non?
Non, mais tout à fait. Mais
ouais, voilà.
J'ai envie de savoir si vous pouvez me conseiller. Est-ce que vaut mieux garder la même avocate pour assigner les deux témoins, les deux faux témoignages en pénal, ou prendre un autre avocat?
Non, enfin, monsieur, moi, ça me semblerait évident que l'avocate qui gère. Et là, au niveau de la cour d'appel qui gère votre divorce, ça me semblerait évident que cette avocate décide également de poursuivre les personnes pour faux témoignage. C'est complètement lié à l'affaire. Donc, sur un plan, on va dire stratégique, moi, je considère que c'est aussi bien.
D'accord.
Mais c'est pas ce qu'elle lui dit, l'avocate. Elle lui dit calmez-vous d'abord. Et mais, gérer les priorités.
Ouais, j'entends bien,
elle a peut-être raison.
Bah, la difficulté, ce serait quoi? Imaginons que... Moi, je peux comprendre, c'est-à-dire de dire qu'il y a des priorités. Sauf que, imaginons que l'affaire de divorce se termine, et ensuite, vous pouvez dire à l'avocate, bon, bah, maintenant que c'est terminé, tiens, on va engager des procédures contre les personnes qui auraient témoigné, en tout cas faussement témoigné. Vous imaginez bien que l'impact de ces faux témoignages aurait une incidence moindre sur votre divorce, parce qu'une fois que le divorce est prononcé, khlas, il est prononcé, ça s'arrête là.
D'accord.
Donc après, se retourner contre les uns et les autres, alors j'allais dire peut-être sur le principe, mais on s'en fout un peu, les procédures sont longues, elles sont coûteuses, donc je peux vous assurer que les principes, quand on met la main à la poche et quand on attend longtemps, on les laisse un peu de côté. Ça me semblerait, moi, logique de déposer plainte maintenant. Et là, je rejoins quand même la consoeur, et ça, c'est important, le fait de déposer plainte contre ces deux personnes pour faux témoignage pourrait avoir comme conséquence de ralentir la procédure devant la cour d'appel. Ça, c'est une réalité. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Mais poursuivre ces deux personnes à la fin, enfin, je vois pas ce que ça pourrait apporter de plus, si ce n'est une question de principe.
Non, non, monsieur, une question de principe, parce qu'en fait, ils ont été cités comme quoi ils disent, ces personnes ont été cités pour s'occuper plus de l'éducation des enfants que moi, et que moi, j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire, j'ai tous les échanges avec les profs et tout ça, et que je m'occupais autant que madame, c'est-à-dire, ils ont minoré mon rôle auprès de mes enfants.
Alors, j'entends bien, mais comprenez que stratégiquement, c'est-à-dire que si vous dites, bon, tant pis, on va attendre la procédure devant la cour d'appel. Donc, la cour d'appel, elle est saisie. En tout cas, elle a, parmi les documents, deux attestations que vous considérez comme des attestations mensongères.
Ah, totalement.
Voilà, donc ça voudrait dire quand même que la cour d'appel pourrait être amenée à prendre en considération, parmi tous les éléments, mais à prendre aussi en considération ces deux attestations mensongères, faire reconnaître demain, après-demain, que ces attestations étaient mensongères, ça n'aura pas d'incidence sur votre procédure d'appel, puisque l'arrêt, la décision sera déjà rendue.
Donc, d'accord.
Mais ça veut dire, si vous le faites en parallèle, que vous acceptez ou que vous intégrez le fait que ce dossier devant la cour d'appel risque quand même, dans ce cas, d'être un peu retardé.
D'accord, donc il faut le faire en deuxième lieu.
Moi, ça me semblerait logique, mais encore une fois, intégrer le fait que dans ce cas, la procédure d'appel va être un petit peu plus longue.
D'accord. Dites-moi juste la dernière question. Est-ce que j'ai été faire une main courante par rapport à ce faux témoignage? Est-ce qu'il faut déposer plainte ou faire une main courante?
Oui, non, après c'est une plainte à déposer. Hein. La main courante, c'est un petit papier qui dit « Cher monsieur, vous vous plaignez des déclarations de monsieur ou madame XY », ça s'arrête là. La plainte, oui, elle est transmise au procureur de la République.
D'accord. Ok.
Voilà.
Ok, merci beaucoup, maître. Vous m'avez...
Merci à vous.
Merci, bonne journée, au revoir.
Merci.
Maître Serran, vous êtes formidable. Merci Reda pour votre appel.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Alors, Tarek, là, en 3 minutes...
En 4.
On le fait en 4.
Vous êtes chaud, hein?
Ouais. Alors, Naïma, Aix, on va voir. Naïma, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour Philippe, bonjour Maître Serane.
Bonjour Naïma.
Alors, ce que je vous propose, parce qu'on a 4 minutes, c'est que vous noterez le numéro de Maître Serane si ce n'est pas terminé à l'antenne, et comme ça, vous pourrez poursuivre cette conversation hors antenne. Ça vous va comme ça ?
Ok.
Alors, on y va, Naïma.
Alors voilà, bonjour Maître Serane.
Bonjour Naïma.
Alors, moi, je vous appelle concernant ma fille. Donc, elle est rentrée en France, donc elle est restée... 3 ans en situation irrégulière.
Ouais.
Ensuite, elle s'est mariée et elle a envoyé son dossier. Après le mariage, elle a envoyé sa demande de régularisation en tant que femme mariée à la préfecture.
D'accord.
Alors, elle a envoyé son dossier. Elle s'est mariée en 2018. Elle a envoyé son dossier en février 2019.
Le mari de quelle nationalité ?
Il est français.
D'accord.
Donc, elle a envoyé son dossier en février 2019. Ensuite, on lui a envoyé une réponse en mai, en demandant, en disant qu'ils n'avaient pas assez de preuves de sa résidence en France. Donc, il fallait qu'elle envoie plus de preuves.
Elle est venue avec un visa ?
Elle est venue avec
un visa. Bon, donc déjà, c'est acté. Il y a une date officielle, une date d'entrée sur le territoire.
Tout à fait, oui.
Après, effectivement, ce qu'ils demandent les autorités préfectorales, ce sont, je sais pas, de justifier de rendez-vous chez le médecin, si elle a acheté quelque chose, est-ce qu'elle a conservé une facture.
Tout envoyé.
Bah voilà.
Donc ensuite, elle leur a fourni tout ce qu'ils lui ont demandé. Et entre-temps, donc elle est tombée enceinte. Elle a envoyé avec ce dossier sa déclaration de grossesse.
Quoi. Ouais.
Une attestation de grossesse. Et depuis, elle attend, il n'y a toujours rien.
L'attestation de grossesse a été envoyée quand ?
Alors, l'attestation de grossesse a été envoyée en juillet.
Bon, alors on me fait plein de signes pour me dire que ça va s'arrêter. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone.
Oui.
Passez-moi un petit coup de fil éventuellement tout à l'heure, si ça ne vous ennuie pas. Vous avez de quoi noter ?
Oui, alors, je le connais.
Ah, vous le connaissez. Bon, je le redis pour
alors
ceux
là,
qui
moi,
me connaissent.
Alors là, moi, je dis Naïma, comment vous connaissez le numéro de Maître Serane ?
Parce que je vous entends tous les jours à la radio. Bon.
Ah. Parce qu'elle a été attentive. Alors, 06 62, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Ok, il n'y a pas de souci, Maître Serane.
On vous fait un gros bisou, Naïma.
À bientôt, Naïma. N'hésitez pas à appeler.
Bonne
journée à vous.
Maître Serane, c'était un plaisir de vous avoir comme tous les vendredis. On vous retrouve très bientôt sur Beurre FM.
Avec
bon week-end, Maître Serane.
Merci.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.